19h viennent de sonner et je suis très heureuse de vous retrouver pour la matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Les sujets étudiants.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Chers auditeurs, chères auditrices, bonsoir. C'est Julie qui vous parle et qui est extrêmement heureuse d'animer cette matinale. Troisième de l'année 2026, mais première pour moi. Première non seulement de l'année, mais de ma vie. Ça, c'est une première fois dont on se rappelle. Et peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui nous écoutent pour la première fois également. Décidément, c'est un jour important. Et logiquement, dans le monde, ça doit être la première fois qu'un enfant fait ses premiers pas pile aujourd'hui. Puis aujourd'hui, un adolescent ira en soirée pour la première fois. Des couples se diront « je t'aime » pour la première fois et une dame deviendra grand-mère pour la première fois. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait pour la première fois aujourd'hui ? Moi, j'ai cuisiné du boulgour pour la première fois. Il y a des premières fois plus impressionnantes que d'autres. Dans mes playlists aléatoires, j'ai écouté plusieurs chansons pour la première fois et dans le métro, il y a tellement de visages que j'ai vus pour la première fois. En fait, la vie est une succession de premières fois. Et ça me ravit de penser à quel point chaque journée est faite de 1000 petites premières fois. Puis aussi de dernières fois, sans qu'on le sache, et de la meilleure fois que quelque chose se passe. Puis d'encore une fois, de « il y était une fois », parfois de foie gras, mais ça c'est du gavage d'oie. En bref, chaque fois est un peu unique. Et vous savez ce qui est unique aussi ? L'émission d'aujourd'hui. Elle n'aura lieu qu'une seule fois dans l'histoire de l'humanité. Ah là là, mais quelle chance vous avez d'être en train d'écouter la matinale du 8 janvier 2026 sur Radio Campus Paris. Dans cette émission unique donc, nous recevrons pour la première fois Clément Carbonnier, professeur d'économie à l'université Panthéon-Sorbonne, qui viendra nous éclairer sur le vote du budget à venir. Il sera interviewé par Vlad et Tiana. Le Flash Info sera assuré par l'IA, puis Abel prendra le temps de nous parler du futur de l'Amérique de Trump dans sa chronique Actu. Ensuite, place au Zoom, mené par Anaïs, où nous allons découvrir l'exposition Propaganda de l'artiste Jenna Marvin, hébergée par Emmaüs Solidarité. Et donc, nous recevrons Gilles Arveng, chargé de communication et de culture. Et enfin, nous terminerons cette émission par la chronique libre de Finn sur le morceau Naïma de John Coltrane.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Ce n'est pas forcément facile de suivre l'économie politique du pays. On entend beaucoup parler de toutes les tensions face au vote du budget, mais sans comprendre forcément tous les enjeux qu'il y a derrière. Pour nous éclairer, nous accueillons donc Clément Carbonnier, professeur d'économie, interviewé par Vlad et Tiana. Je vous laisse la parole.
Clément Carbonnier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'économie donc à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et co-directeur de l'axe politique socio-fiscale du LIEP à Sciences Po. Vous vous intéressez à la fiscalité, aux politiques redistributives et au marché du travail. Et on vous a invité aujourd'hui pour parler du budget. Tout d'abord, si l'on s'attarde sur la situation actuelle en France, le budget de l'État, aussi appelé donc le projet de loi de finances, n'a pas encore été voté, alors que l'on est déjà entré en 2026. L'Assemblée nationale a rejeté le volet des recettes en novembre dernier, le Sénat avait adopté le texte modifié en décembre, et la commission mixte paritaire qui visait à accorder le Sénat et l'Assemblée n'est pas parvenue à un accord. Mais donc, vous, comment vous expliqueriez que les parlementaires soient en désaccord ?
Ah ben, ils sont en désaccord parce qu'ils ont des perspectives et des ambitions pour la politique générale qui sont très divergentes et que les dernières élections n'ont pas donné de majorité à aucun des bords. Et effectivement, le problème, c'est qu'on pourrait penser dans ce cadre-là qu'on pourrait avoir cherché des compromis, mais les compromis sont particulièrement difficiles à trouver dans le sens où, pour le coup, c'est pas, il n'y a pas simplement des petits désaccords et puis on va accepter un compromis d'un côté en échange d'un compromis de l'autre. C'est que là, il y a vraiment des perspectives générales de politique qui sont très fortement divergentes. pour le dire rapidement, hein, notamment, on est dans une période avec un fort déficit du budget, donc global, donc on a beaucoup moins de recettes que de dépenses. Et donc, pour simplifier les choses, il y a deux manières d'essayer de résoudre la situation. On peut augmenter les recettes d'un côté pour essayer de les rapprocher des dépenses, ou de l'autre côté, diminuer les dépenses pour essayer de les rapprocher des recettes. Et c'est sur ces deux perspectives qui sont quand même très opposées que les accords ne se font pas.
Merci beaucoup. Et justement, concernant un autre projet de loi donc, qui a lui été voté, celui du financement de la sécurité sociale, qui a été voté avec l'aide du Parti socialiste, votre avis en fait, sur ce projet de loi, quel est votre avis et qu'est-ce qu'il contient?
Alors, y a deux... ouais, effectivement, je pense que c'est important de rappeler la différence entre les deux. Donc, historiquement, la sécurité sociale était indépendante d'une certaine manière, c'est-à-dire c'était une structure qui était gouvernée par les représentants du monde du travail qui décidaient, qui avaient en gros une obligation d'être eux-mêmes à l'équilibre, mais qui décidaient d'une certaine manière de des décisions sur ce qu'on faisait en termes de sécurité sociale et comment on le finançait. Il s'est trouvé que, notamment dans les années 90, on y reviendra peut-être dans la deuxième partie, justement, la deuxième partie sera sur cette histoire-là. Dans la deuxième partie, l'État a petit à petit repris la main sur la sécurité sociale. Et donc maintenant, on a deux budgets qui sont votés par l'Assemblée nationale, qui sont le budget de l'État et le budget de l'État et des collectivités territoriales d'un côté, le PLF qui n'a pas été adopté, et le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui maintenant est décidé par l'État. Et donc c'est celui-là qui a été voté.
Alors
ça c'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi on a pu trouver un compromis sur celui-là et pas sur l'autre? En fait, pour le dire simplement, la grande manière de trouver le compromis, ça a été de renvoyer les désaccords sur l'autre. C'est-à-dire que typiquement, la manière de trouver le compromis, ça a été de garder un projet de loi de financement de la sécurité sociale qui était déséquilibré, en disant le déséquilibre, on l'équilibrera à travers une subvention de l'État. Enfin, en gros, on équilibre le budget par une subvention de l'État. Et donc, du coup, cette subvention de l'État, il va falloir l'équilibrer dans le budget de l'État. Et donc, on a quelque part, on a repoussé le problème. Et donc, oui, on a trouvé un accord sur le budget de la sécurité sociale, mais c'est pas un accord, c'est pas un vrai accord, en fait. On a déplacé le problème sur le budget de l'État.
Donc, vous ne pensez pas que ce serait applicable également pour le budget qui est en cours de...
Mais là, le problème, c'est qu'il n'y a pas de troisième budget où on peut déplacer le problème. Donc, derrière, là, maintenant, il va falloir diminuer les dépenses, soit augmenter les recettes, soit un peu des deux, mais dans quelle proportion et surtout lesquelles, quelles recettes on augmente, quelles dépenses on diminue, soit ne pas tenir les engagements en termes de baisse de déficit et donc le financer par l'endettement. Mais là, aujourd'hui, on n'a plus d'autres moyens. Alors que pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale, il y avait un moyen qui était de dire on va repousser le problème, on va financer par une dotation de l'État, et le problème, on va le repousser dans le budget de l'État pour financer cette dotation.
D'accord. Et justement, quand vous parliez du déficit, c'est un des enjeux principaux du budget, c'est surtout de le réduire à environ 5% du PIB. Et c'est important, puisqu'un PIB élevé, ça signifie plus de dettes. Et je voulais vous demander à quoi on peut s'attendre dans ce budget-là en termes d'objectifs réels. Est-ce qu'on pourra vraiment atteindre les 5% ou pas?
Alors le problème effectivement c'est que a priori oui, dans le sens où on va déterminer une anticipation de ce que sera le PIB, ce qui va permettre de définir à combien correspondront ces 5% du PIB, et ensuite on va essayer de faire en sorte mais à nouveau des anticipations de recettes et de dépenses pour arriver à ce montant-là. Ensuite, la question c'est la réalisation, c'est-à-dire qu'est-ce que ce qui va se passer en 2026 va correspondre aux anticipations. Et là il y a un certain nombre de questions qui vont se poser, d'abord parce que l'économie c'est incertain, donc les choses peuvent se passer un peu différemment, et on sait qu'il y a des incertitudes. Enfin, si demain les États-Unis envahissent le Groenland et que la France doit intervenir, etc., ça va chambouler son budget. Donc c'est sûr que là, rien ne sera tenu. Mais en dehors de ça, il y a des effets même du budget sur les possibilités. C'est-à-dire que si on prend un budget très récessif, si on coupe fortement certaines dépenses, ça peut empêcher finalement le PIB de se dérouler comme il aurait dû se dérouler. Et donc dans ce cadre-là, on aurait un PIB plus petit que prévu, et donc pour le même niveau de déficit, ça correspondrait à un plus haut niveau de PIB. Donc là, je exempté d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'au moment où on va le voter, ça va probablement correspondre par rapport aux anticipations de PIB et par rapport aux anticipations de recettes. Et ensuite, en fonction de comment l'économie va se passer, eh ben, ces recettes seront peut-être différentes et le PIB peut-être différent.
C'est plus des prédictions.
Ben, bon, forcément. Ouais. On fait forcément les budgets à l'avance et donc on les fait sur des prédictions.
Okay. Et j'avais une dernière question pour vous. C'était sur un article qui est aujourd'hui paru, qui a aujourd'hui paru dans Mediapart et qui évoquait une phrase qui avait été prononcée par Maud Brejon, qui est la porte-parole du gouvernement, lundi dernier sur BFM TV, et qui disait « Il faut un budget en janvier, il y aura un budget en janvier ». Donc, enfin, comment vous interprétez cette phrase et est-ce que selon vous, le gouvernement risquerait en fait d'utiliser l'article 49 alinéa 3 pour faire adopter justement ce budget sans vote ?
Ben, le problème, et là on est plus dans un problème politique que dans un problème économique, c'est-à-dire que effectivement, ce qu'on disait au début, c'est que les points de divergence sont tellement forts que personne ne peut être prêt, je pense. Je vois pas comment les différents partis politiques pourraient s'entendre sur un budget. C'est-à-dire que dans tout budget d'accord, il y aurait des choses forcément inacceptables pour certains des partis. Après, ce qui se passe, c'est que c'est plus facile pour un parti de dire « j'ai pas voté contre » que de dire « j'ai voté pour ». Et donc, dans ce cadre-là, en gros, ce qui peut se passer, c'est que il peut y avoir des accords, pas officiels, des accords un peu qu'on crée en dehors de l'Assemblée nationale, en disant, ben voilà, s'il y a ça et ça et ça, on s'opposera pas. On votera pas pour, mais on votera pas contre. Et en fait, ce qui permet de faire passer une loi sans voter contre, c'est le 49-3. Donc oui, le 49-3, dans ce contexte-là, je pense qu'il est assez probable. On verra. Peut-être que, par miracle, ils vont se mettre d'accord.
D'accord, merci beaucoup pour toutes ces réponses.
Merci pour toutes ces informations, Clément Carbonnier. On fait une petite pause musicale, mais on vous retrouve dans quelques minutes, juste après avoir écouté Gone Daddy Gone de Violent Femme.
Gone.
C'était Gone Daddy Gone de Violent Femme et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Nous étions donc en train de parler du budget avec Clément Carbonnier, professeur d'économie, et je repasse le micro à Vlad.
Oui, alors du coup, en première partie d'émission, du coup, vous nous avez fait un peu tout un cadrage sur ce budget, sur le vote et sur un peu toutes les perspectives qui s'offrent un peu à tout ça. En deuxième partie d'émission, je voulais un peu orienter un peu tout ça sur les politiques, l'orientation globale des politiques budgétaires. J'ai vu que vous aviez sorti en actualité récente un livre en octobre 2025 qui s'intitule « Toujours moins, l'obsession du coût du travail ou l'impasse stratégique du capitalisme français ». Donc il y a un livre qui est sorti aux éditions La Découverte. Et dedans, vous avez décidé, c'est quand même un gros projet, d'analyser 40 ans de politique budgétaire française avec des chiffres, avec vraiment des données. Vous dites, selon vous, qu'elles ont été consistantes dans une recherche perpétuelle d'allègement du coût du travail pour les entreprises. Donc c'est ce que vous analysez et vous dites, ça a été du coup 40 ans de politique budgétaire et donc de vote de budget qui allait dans ce sens-là, l'allègement des coûts pour les entreprises. Du coup, j'ai deux questions pour vous. Est-ce que, selon vous, votre conclusion, c'est que le PLF proposé cette année s'inscrit dans cette même logique d'abaissement du coût du travail? Et est-ce que ces politiques budgétaires ont fonctionné, selon vous, depuis 40 ans?
Alors, il s'y inscrit dans le sens où il est, d'une certaine manière, en partie, c'est-à-dire qu'il essaye de le continuer, il l'approfondit peut-être moins vite que les toutes dernières années. Mais oui, il est très très fortement marqué par ça, notamment dans le fait, par exemple, sur la question des possibilités de recettes potentielles pour combler le déficit, ont été barrées toutes les recettes qui potentiellement auraient pu réaugmenter le coût du travail.
Pas plus d'impôts pour les grosses entreprises, vraiment avec une très,
voilà, et
très
puis,
grande
puis,
frilosité.
Puis a été assez mis en débat un des gros points qui a été les allègements de cotisations sociales pour les employeurs, qui, juste pour donner un ordre de grandeur, l'ensemble des montants retrouvés à chercher pour pouvoir atteindre cet objectif de déficit, c'était d'essayer de modifier par rapport à la continuité de 40 milliards d'euros la différence entre les dépenses et les recettes. Les allègements de cotisations, c'est 80 milliards par an.
Donc 80 milliards par an qui sont allégés des entreprises sur les salaires et sur les cotisations salariales.
Exactement. Donc il a été question de diminuer ce montant-là et en fait pour les raisons que j'explique dans le livre, pour toujours les mêmes raisons, ça n'a pas été fait, qui sont des raisons maintenant on a 40 ans d'expertise d'une certaine manière de le regarder. Or c'est des raisons qui sont très théoriques, c'est-à-dire que l'idée qu'il y a derrière, c'est dire si le travail coûte moins cher, en fait le travail c'est une marchandise comme une autre que les employeurs achètent, et puis si le travail est moins cher ils vont en acheter plus.
Mais si ma baguette coûte 3 euros je vais acheter moins de baguettes que si elle coûtait 1 euro, hein.
C'est voilà, un peu ça la logique, c'est derrière, vraiment ça la ça. Logique et en fait ça se passe pas comme ça,
les
40 ans d'expérience nous disent que ça ne fonctionne pas, mais on s'obstine pour différentes raisons que j'essaye aussi d'expliquer dans le livre.
Oui, et donc du coup, en fait, on s'obstine à travers toutes ces politiques-là, mais du coup, pourquoi, malgré le constat d'échec, parce que vous n'êtes pas le seul à le dire, hein, y a énormément d'analyses politiques qui disent que cette politique, ce qu'on appelle globalement la politique de l'offre, c'est-à-dire qu'on va soulager les entreprises pour qu'elles embauchent plus, pour qu'elles investissent plus, tout ça, il y a un constat d'échec sur ces politiques-là, et qui ne relance pas l'emploi, qui ne relance pas la croissance. Pourquoi est-ce que les gouvernements successifs s'acharnent à maintenir cette politique de baisse du coût du travail? Pourquoi est-ce qu'ils sont encore dans cette espèce d'optique là. Est-ce que vous pouvez l'expliquer?
Je suis pas dans leur tête, donc je sais pas exactement, mais je vois leurs arguments. Et effectivement, les arguments, ils sont de plus en plus, disons, en contradiction avec les preuves que les travaux empiriques mettent en avant. Donc pourquoi on s'obstine dans ce cas-là? Je pense qu'il y a deux potentielles raisons. Il y en a une qui est peut-être une croyance très très forte. Je pense qu'il y a quelque chose de plus fort, c'est que tout le monde n'y est pas perdant. C'est-à-dire que l'économie dans sa globalité, l'emploi n'y est pas gagnant, ça ne marche pas. Mais il y a des gens qui gagnent. En gros, gros, le gros de cette question-là, en fait, c'est pas une question d'efficacité économique, c'est pas baisser le coût du travail, ça ne permet pas d'avoir plus d'emplois. Par contre, ça modifie le partage de la valeur créée par la production entre les employeurs, les actionnaires, aussi certains salariés les mieux payés, d'un côté, qui en bénéficient en termes, non pas de quantité d'activité, mais vraiment juste en termes de rémunération, hein, de revenus, et puis la majeure partie des salariés qui n'en bénéficient pas ni en termes de quantité d'emploi parce que ça ne fonctionne pas, mais qui en pâtissent parce que finalement cette politique elle a plusieurs effets. Elle a des effets qu'elle amène à baisser les salaires, donc les gens ont moins de revenus, la grande stagnation, ce que les gouvernements appellent la smicardisation, et puis hein, ils essayent de regarder ailleurs que dans leur politique les causes, alors qu'on pourrait les trouver assez facilement cette smicardisation, ça veut dire moins de revenus, mais aussi c'est comme pour avoir cette baisse du coût du travail, il y a une partie qui est par des salaires plus bas, mais une partie qui est par en fait des formes de subventions ou de moindres recettes publiques sur les employeurs, ça a un impact sur le budget. C'est là le lien aussi avec le budget. C'est-à-dire que si on a autant de déficits, c'est aussi parce que on a utilisé les fonds non pas pour les services publics, pour la protection sociale, mais de plus en plus pour subventionner les employeurs. Et donc, dans ce cadre-là, on a détérioré les services publics et donc aussi la plupart des travailleurs, et notamment de ceux qui sont les moins favorisés et qui ne peuvent pas s'acheter un substitut privé au service public, bah, ces gens-là, ils en pâtissent doublement dans leur salaire et dans les services publics.
Et du coup, ce qui a un effet de négatif avec un cercle vicieux sur l'économie, parce que si les gens ont moins de pouvoir d'achat, ont moins de possibilités, ben, du coup, ils ne vont pas relancer l'économie par la consommation, par l'achat, etc. Donc cette politique-là, on pourrait dire qu'elle est un peu absurde, mais ils s'acharnent à faire ça parce que ça remplit ce que vous essayez de dire, certains intérêts, notamment les intérêts des grosses entreprises et des salariés les mieux rémunérés. Quoi.
C'est ça. C'est-à-dire que derrière, effectivement, c'est pas un effet. Et donc, ces inégalités, en fait, ça accroît les inégalités, ça répartit différemment. Et donc, il y a les gens qui en bénéficient, bah, ils sont favorables. Et ces gens-là, bah, ils ont peut-être un peu plus voix au chapitre, d'une certaine manière, que ce soit médiatiquement ou que ce soit à travers d'autres formes, à travers des formes de chantage à l'emploi, même si, in fine, le chantage à l'emploi, donc l'idée de dire, mais si vous ne nous faites pas ça, nous, on va partir. L'expérience nous montre que, en fait, ça ne se passe pas. Et donc, il n'y a pas d'effet sur l'emploi de ces politiques. Mais malgré tout, la peur de ce chantage, visiblement, fonctionne.
C'est l'exemple de la taxe Zucman, où du coup, énormément de grands milliardaires français se sont opposés à ça en disant bah, « on va tous partir si jamais vous nous taxez à 2% ».
On va tous partir. Alors qu'effectivement, c'est un peu l'équivalent. Il y avait eu un certain nombre d'études d'économistes, notamment après donc, la fin de... Enfin, un certain nombre de politiques très favorables aux grandes fortunes au début du premier quinquennat Macron. Il y avait eu le France Stratégie, donc qui est en plus un organisme officiel placé auprès du Premier ministre, qui avait commandé des études auprès de chercheurs académiques, qui avait dit bah non, ça n'a eu aucun effet sur le retour, on n'arrive pas à avoir le moindre effet sur le, alors que c'était quelque chose de massif. Mais malgré tout, ce chantage-là, il continue, et puis comme il est matraqué aussi d'une certaine manière médiatiquement, comme il est défendu par beaucoup de députés, bah, in fine, on fait comme si ça avait un impact, et donc ce chantage est efficace d'une certaine manière pour obtenir les politiques que veulent effectivement les gens qui gagnent à ces inégalités. Même si en réalité pour l'économie, ça a plutôt des effets pervers qui expliquent aussi en partie le marasme actuel.
Et vous, du coup, dans vos recherches, puisque vous êtes économiste, vous avez l'impression que du coup votre voix et vos recherches avec tous vos collègues peuvent quand même porter auprès des décideurs et des décideuses politiques. Vous sentez qu'au niveau de tout ce qui est la prise de décision budgétaire, il y a quand même un frein, comme vous le dites, parce que du coup, il y a des personnes qui ont plus de voix que vous, qui ont plus, qui concentrent plus d'intérêt.
On peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Pour voir le verre à moitié plein, je dirais que, en tout cas, on nous entend beaucoup plus qu'il y a encore 10, 15, 20 ans. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une telle accumulation de preuves que c'est de plus en plus difficile de simplement le balayer d'un revers de main. Donc c'est vrai qu'il y a 10, 15 ans, quand on disait déjà, parce qu'il y avait déjà des éléments de preuves, en fait, cette politique de baisse du coût du travail, elle ne crée pas d'emplois. La réponse était, mais vous êtes pas un vrai économiste. Enfin, vous avez cité tout à l'heure, c'était l'exemple, ce qu'avait dit Bernard Arnault de Gabriel Zucman. C'est pas un vrai économiste. Bon, il a juste été professeur à Berkeley, mais il est pas économiste. Mais donc voilà. Et donc il y avait vraiment ça. Sauf que aujourd'hui, il y en a toujours qui le font, mais beaucoup moins. C'est-à-dire que les preuves se sont accumulées. Et donc oui, ça commence à se voir plus. Notamment, même si in fine c'est pas passé, ça a été discuté. Il y a eu un certain nombre d'amendements sur...
Un soutien populaire aussi sur certaines réformes qui sont demandées aussi.
Des soutiens populaires. Mais même là, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, il y a eu un amendement qui n'est pas passé, mais de très peu, et qui a été discuté sérieusement pour commencer à revenir en arrière sur, par exemple, ces politiques d'allègement de cotisations sociales. Donc voilà, donc les choses commencent un peu à bouger. Maintenant, il ne faut pas non plus être trop optimiste. C'est-à-dire que, de fait, pour l'instant, c'est encore les défenseurs de ces politiques inégalitaires qui gagnent. Mais ils sont un peu plus contestés.
Ouais, mais c'est de là d'où votre travail, en tout cas en tant que scientifique et sociologue, est d'autant plus important pour réussir à porter un peu ces voix-là et ces contre-modèles. Et du coup, en parlant de ça, une dernière petite question, il nous reste encore deux petites minutes. Vous, selon vous, quelle serait une proposition de budget qui serait plus judicieuse pour répondre à ces défis économiques? Est-ce que vous avez des orientations possibles pour lesquelles, que vous pourriez conseiller justement pour essayer d'orienter un peu les différents budgets?
Alors c'est des orientations. Je vais pas faire un budget. De toute façon, ça dépend de beaucoup de choses. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, ça dépend aussi, si on veut être un peu précis, des anticipations. Et donc, ces anticipations, pour pouvoir les faire, il faut avoir des données très très précises, etc., etc. Donc, mais les grandes orientations, oui, c'est de revenir, en tout cas, sur un certain nombre de choses qui ne marchent pas, de faire le point, notamment sur un certain nombre de non-recettes qu'on fait, soit à travers, on a eu beaucoup de baisses des impôts sur les plus fortunés, on l'a dit, qui n'ont pas d'effet. On a ces politiques-là qui coûtent très cher à l'État pour compenser les employeurs et qui n'ont pas d'effet. On a donc toutes ces choses-là qui pourraient permettre de financer parce que, et ça c'est peut-être le point, parce qu'il y a beaucoup de choses à financer. Ces choses à financer, elles sont importantes pour les ménages parce que on a des contraintes de plus en plus fortes, on a de la pauvreté qui augmente assez fortement en France, c'est simplement là le bien-être des ménages qui est nécessaire. On a de la dégradation des services publics, mais il faut bien voir aussi que on a aussi un problème de financement d'infrastructures qui pénalise aussi les entreprises. On a un gros défaut quand on regarde en comparaison internationale sur la recherche fondamentale. Et évidemment, les entreprises vont pouvoir être plus efficaces si elles peuvent.
Il y a tout un écosystème à maintenir autour des entreprises, pas seulement le coût du travail.
Voilà, et c'est ça. Et l'idée, c'est que même pour aider les entreprises, il y a d'autres moyens. Et notamment, c'est pas en leur donnant du travail moins cher et de plus en plus en moins bonne santé qu'on les aide, en fait. Et effectivement, c'est en ayant une population un peu moins contrainte, un peu plus de demandes, en ayant plus d'innovation, des meilleures infrastructures, d'avoir une efficacité plus grande. Et donc, c'est plutôt aller dans ces dimensions-là. Le problème, c'est qu'on est très contraint budgétairement. Et donc, pour pouvoir commencer à se réorienter dans ces réinvestissements à la fois dans le bien-être des populations et dans l'efficacité économique, il faut pouvoir prélever des ressources. Et pour prélever des ressources, il y a quand même un certain nombre de candidats.
Merci beaucoup.
Merci Clément Carbonnier, merci Vlad et merci Tiana. On est maintenant plus éclairé sur ce sujet ô combien d'actualité qu'est le vote du budget. Et on va continuer dans l'actualité. L'actualité du jour avec l'IA qui nous présente tout de suite le Flash Info.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Bonsoir à tous. Des tracteurs au pied de la Tour Eiffel et de l'Assemblée nationale. Les agriculteurs ont manifesté aujourd'hui dans les rues de Paris, une action portée principalement par la coordination rurale. Le syndicat dénonce l'abattage total des troupeaux en cas de dermatose nodulaire, mais également la signature du Mercosur, un traité de libre-échange européen. La présidente de l'hémicycle, Yaël Braun-Pivet, a reçu les syndicats dans l'après-midi. Les États-Unis s'affranchissent des règles internationales. Emmanuel Emmanuel Macron s'est exprimé devant les ambassadeurs français. Un discours annuel sous le sceau de l'inquiétude. Le chef d'État a dénoncé une tentation de partager le monde entre grandes puissances, je cite. Ces déclarations interviennent 5 jours après l'enlèvement du président vénézuélien. Nicolas Maduro a été capturé par les forces militaires américaines. Lui aussi était emprisonné, mais par la Russie. Le chercheur français Laurent Vinatier vient d'être libéré. Détenu depuis 2024, son retour en France a été négocié dans le cadre d'un échange avec un basketteur russe arrêté en juin à Roissy. Le chercheur a été reçu cet après-midi même au ministère des Affaires étrangères. Fermeture des écoles, suspension des transports scolaires, la Manche se prépare à l'arrivée de la tempête Goretti d'ici demain. Dès 21h, le département basculera en vigilance rouge au vent. Certaines rafales pourraient même atteindre les 160 km/h. En tout, 25 départements passeront en vigilance orange, du Finistère à la Seine-et-Marne. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 11 janvier, le rappeur Ninho s'empare du Grand Palais. Le musée parisien accueille une expérience musicale immersive. Elle célèbre la sortie d'une mixtape intitulée Mills 4. C'est le dernier volet de la série qui a lancé la carrière de l'artiste franco-congolais.
Merci Lia. À présent, on va vous proposer un peu de musique. Ce n'est pas Ninho, mais ce sera Assinine avec un morceau qui s'appelle Encourage.
Ma mère, elle aurait voulu être avocate. Parfois, elle s'accroche à des rancunes comme si c'était des mains. Ma sœur, elle a presque failli être avocate. Je crois qu'elle a capté que les rêves, c'est mieux quand c'est les siens. Moi, j'aurais peut-être dû être avocate. Vu comment je défends mes choix de merde, quitte à foutre ma vie dans le drain. La tête est sur la vide comme quand j'écoutais à l'ammoniaque. Les poings serrés dans l'anorak. Viens, s'il te plaît, m'orage, viens, on fait la chorale. J'entends le chant des ambulances sur le boulevard, un peu comme la chorale. Premier soleil, il est juste caché par l'orage. Il est juste caché par l'orage. À ta foi, comment on encourage, moi, c'est toi qui auras raison. Les étoiles au plafond me semblent être à des années-lumière. Promesse dans le sable, je n'y meurs. J'attends que le cafard me rémunère. Je quitte les passants, les vieux qu'hier. Ça va déjà un peu mieux qu'hier. Apprends-moi comment on parle des choses. Quand je les mains, l'eau froide, pareil, chaude. Ce qui plaît au début, compte pas mes fautes. Apprends-moi comment faire, apprends-moi comment. Apprends-moi comment on parle des choses. Quand je les mains, l'eau froide, pareil, chaude. S'il te plaît, au début, compte pas mes fautes. Apprends-moi comment faire, apprends-moi comment. Les promesses brisées à te brisent. Moi j'ai promis la lune et le monde. Pour l'instant, j'ai même pas des mots. J'suis pas sûr que ça cicatrise. Les promesses brisées à te brisent. Moi j'ai promis la lune et le monde. J'suis pas sûr que ça cicatrise. C'est l'enfer, l'inverse c'est pire. Ma rétrécir c'est dur. Et moi je trouve presque ça beau saisir. Je regarde la vie s'écrire, mon immeuble qui s'effrite. Tu manges le bois dans le fond des yeux. Ça me brise le cœur quand tu récites. Le temps il m'apprendra la leçon. Les années que ça prendra passeront. Je dirai merci, je dirai pardon. Plus je reste dans le mauvais train, plus le retour coûtera cher. J'ai tout gâché, ça fait mal comme quand le couteau trouve la chair. Mais je le promets, je vais me racheter. Y'aura beaucoup de zéros sur l'écran de l'ACM. Je réclerai de ton tout premier problème à l'énième. Un appart sur la corniche, un dans le 16e. On aura la vie qu'on mérite avant qu'il y revienne. Les promesses brisées à te brise. Moi j'ai promis la lune et le monde. Pour l'instant j'ai même pas des mots. J'suis pas sûr que ça cicatrise. Les promesses brisées à te brise. Moi j'ai promis la lune et le monde. Pas sûr que ça cicatrise. Les promesses brisées, elles te brisent. J'suis pas sûr que ça cicatrise. J'suis pas sûr que ça cicatrise.
C'était Encourage de Assinine et vous avez bien de la chance d'écouter la matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
On continue sur l'actualité puisque l'on retourne voir les États-Unis avec Abel pour sa chronique actu. Bonjour Abel.
Bonsoir Julie, bonsoir Radio Campus. Merci de m'avoir laissé ce petit créneau et c'est mon premier en 2026. Parce que oui, c'est la nouvelle année, donc bonne année. Et putain, j'adore dire ça en fait. Ce week-end, je retourne dans mon village, ça va être un régal. Bonne santé à tout le monde, surtout tout le monde, peut-être pas en fait. Parce qu'aux États-Unis, c'est une bonne santé uniquement pour les blancs riches protestants et dociles avec la police. Parce qu'au-delà de l'enlèvement du dictateur vénézuélien Nicolas Maduro le week-end dernier, on a assisté presque en direct au meurtre d'une citoyenne américaine en pleine rue de Minneapolis par la milice ICE. Un événement qui affole et indigne et bien évidemment, les autorités ont plaidé la légitime défense. Et pour clôturer la journée, la marine américaine a saisi un pétrolier russe. Ça n'a pas manqué d'agacer la diplomatie russe et en pleine négociation sur la guerre en Ukraine, ça n'aide pas beaucoup. Une semaine presque banale dans la plus grande démocratie du monde. Moi, ça me fait un peu peur et je pense pas être le seul. Probablement que c'est très calculé, mais le plus terrifiant, ça reste l'incertitude, la capacité de ce vieil homme sénile à jouer le dessin du monde à pile ou face, c'est pas très rassurant. Et pour ceux qui ne seraient pas d'accord avec le sénile, le gars a confondu le test de QI avec celui de démence et trouvait les questions très compliquées. Bon, en tout cas, je suis pas là juste pour cracher mon venin, même si j'adore ça, mais parce que j'ai écrit la suite de la saison 2 de The Big Bang Trump Party. J'espère que ça saura vous armer face à la suite. Février 2026, Donald Trump organise l'exploitation du pétrole vénézuélien par des entreprises américaines. Avril, il envahit le Groenland après les protestations des leaders européens qui privilégient le dialogue et la diplomatie. Emmanuel Macron aurait déclaré « pas cool le mec ». Été 2026, après un épisode de canicule très puissant, causant décès, sécheresse et crise financière, il interdit les radiateurs pour lutter efficacement contre le phénomène. À Noël, il rencontre Erika Kirk qui vient sur un dinosaure mécanique à l'effigie de son mari. Trump la déclare « marvelouse ». Par la suite, au nouvel an, après s'être trompé sur le décompte, il est contredit par son conseiller et interdit la négation dans l'enceinte de la Maison Blanche. Dans l'hiver 2027, pendant un épisode de froid, il autorise à nouveau les radiateurs, mais interdit l'air conditionné. Cette annonce révolte les Américains. Il interdit qu'on le contredit sur le sol américain. Les sénateurs républicains acquiescent. Pendant le courant de l'année, il annexe le Royaume-Uni pour faire un terrain de golf géant, avec le plus long parcours jamais créé, 34 700 trous. Et Emmanuel Macron s'insurge et le bloque sur Instagram. Arrivé en 2028, il se fait couronner Donald Trump le magnanime, premier empereur des États-Unis et annonce la grande croisade pour lutter contre le fléau gaucho-wokiste antifa mondial et envahit l'Amérique latine. Malheureusement, il décède durant Thanksgiving en s'étouffant sur son 13e pilon de dinde, affirmant que les vrais hommes mangent aussi les os. J'aimerais vous conter la suite, mais au-delà de mon temps imparti, on va me couper. Et puis mon IA a du mal à voir au-delà. De toute manière, vous voyez bien que c'est satirique. Aucun Américain n'est capable d'interdire l'air conditionné, même Donald. C'est un monde bien triste, mais pour citer Jean-Luc Mélenchon, après la nuit, aussi longue et sombre soit-elle, arrive l'aurore. Merci à tous et passez une excellente soirée.
Merci Abel. Ben, on espère voir arriver l'aurore le plus rapidement possible. Et tout de suite, on passe au Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Dans cette deuxième partie d'émission, on retrouve Gilles Arvan de l'équipe communication et culture de Emmaüs Solidarité qui vient pour nous parler de l'exposition Propaganda Jenna Marvin. Mais je laisse tout de suite la parole à Anaïs.
Bonsoir tout le monde, bonsoir Gilles, bienvenue pour cette émission et pour ce Zoom. Alors aujourd'hui vous êtes venu nous parler de l'exposition Propaganda présente dans le centre culturel d'Emmaüs Solidarité qui a lieu du 4 décembre 2025 au 7 février 2026. Pouvez-vous nous en dire, faire une présentation en quelques mots ?
Oh, en quelques mots, en plusieurs mots même. Bonsoir et merci pour l'invitation. Effectivement, la nouvelle exposition de Transfo s'appelle Propaganda. Elle est avec l'artiste Jenna Marvin. Et Jenna Marvin, c'est une artiste russe, une performeuse, photographe et sculptrice, queer et non-binaire. Elle est née en Russie. Elle est née à Magadan, exactement, l'extrême est de la Russie, qui était autrefois le siège des goulags. Elle a découvert son identité queer assez jeune et dans un pays comme la Russie, dans un système politique, social, familial, brutal et oppressif, ça n'a pas forcément été très simple. C'est ce que raconte notamment l'exposition Propaganda.
Et pourquoi le titre Propaganda et que représente-t-il dans l'exposition ?
Eh bien justement, Propaganda, le titre a été volontairement... le titre que nous avons choisi a été volontairement détourné de l'utilisation qu'en fait Poutine pour accuser l'Europe de ternir des valeurs morales traditionnelles de la Russie et qui sont forcément excluantes. Il utilise notamment les termes de propagande LGBT, bien sûr, mais aussi de Gay Europa, qui est la contraction de Gay et Europe. Et ces termes, en fait, sont repris dans le texte que nous avons affiché dans l'exposition de l'OFPRA, l'Office pour les réfugiés, qui étudie justement chaque cas de toute personne LGBT qui arrive en France pour leur donner ou non le statut de réfugié et donc explique la situation de toute la communauté LGBT en Russie.
Et à quel public s'adresse cette exposition ?
Tout public, des plus jeunes aux plus vieux. Oui, tout public. Enfin, c'est comme d'habitude, c'est-à-dire que toutes nos expositions sont organisées pour n'importe quel public, que ce soit en dehors de l'association, mais aussi à l'intérieur, puisque les résidents participent également aux activités du centre culturel.
Et quel a été le concept de départ pour cette exposition ?
Le concept, en fait, l'exposition part du documentaire qui est sorti sur Jenna Marvin en 2023, qui s'appelle, j'ai oublié le nom, alors je le retrouve, c'est Queendom, exactement, réalisé par Anya Galdanova. Et en fait, ce documentaire a été présélectionné par les Oscars en 2023 ou 2024, je ne sais plus. Et en voyant ce documentaire, la mission culture d'Emmaüs Solidarité était intéressée justement de rencontrer cet artiste qui est donc réfugié en France depuis 2022. Maintenant, depuis le début de la guerre en Ukraine, et donc d'essayer de construire sa première exposition, puisque c'est la première exposition qu'elle fait en France.
Et qu'est-ce que vous souhaiteriez faire passer comme message aux visiteurs donc, qui viennent visiter l'exposition ?
Alors, le message, je pense que il faut, je pense, montrer justement les artistes qui se battent pour le droit à l'existence, enfin, notamment Jenna Marvin, qui donc elle se bat depuis longtemps pour ça, en Russie et aujourd'hui en France. Et je pense que justement, en ces temps un petit peu compliqués dans beaucoup de pays aujourd'hui, et peut-être à l'avenir dans le nôtre, je pense qu'il est important qu'une association comme Emmaüs Solidarité puisse défendre justement ce thème-là, en tout cas.
Et ça, c'est très intéressant. Et puis, et pourquoi d'ailleurs le faire dans un centre d'hébergement ? Parce que je sais que l'exposition Propaganda a été faite et présente à l'heure actuelle dans le centre d'hébergement Transfo.
Alors,
dans le 10e arrondissement de Paris.
Oui, pour être plus précis, alors déjà il faudrait que je parle d'Emmaüs Solidarité qui lutte contre l'exclusion des personnes et des familles à la rue depuis longtemps maintenant et qui accompagne 9000 personnes en Île-de-France et en Loir-et-Cher via l'hébergement, mais aussi via la santé, le sport et la culture. Et donc effectivement, le centre culturel Transfo est en fait aménagé dans un centre d'hébergement, c'est-à-dire que vous avez des espaces de vie aux étages supérieurs et puis au rez-de-chaussée et au premier étage, vous avez des salles d'exposition dans lesquelles nous pouvons justement organiser ces expositions.
Tout à fait, oui, c'est très intéressant. Et est-ce qu'il y a des œuvres, quelles sont les œuvres qui sont présentes dans cette exposition et est-ce qu'il y a une œuvre emblématique dont vous souhaiteriez nous parler ?
Alors, je pense que tout mérite d'être vu et entendu dans cette exposition, mais elle rassemble effectivement un ensemble de photographies, de vidéos, de sculptures et d'installations issues de sa démarche artistique. Il faut savoir que Jenna utilise beaucoup son corps pour exprimer son art et interroger alors la notion d'identité et de différence. Par exemple, elle utilise beaucoup le scotch. Vous savez, le scotch gaffer, noir brillant, rouge vif, blanc également. Elle recouvre son corps de ce scotch entièrement et forme ainsi comme une armure, une protection, une deuxième peau. Et c'est ce rapport entre vulnérabilité de son identité et l'armure qui est essentiel dans son travail. Et donc, dans l'exposition, vous avez à la fois donc, ce matériau-là qui est beaucoup utilisé, notamment pour une salle qui est recouverte entièrement de scotch rouge et qui s'appelle Mémorial, justement en hommage à toute cette communauté LGBT en Russie, mais peut-être aussi partout dans le monde, qui se bat pour ses droits et pour le droit à l'existence. Et puis ensuite, vous avez beaucoup d'œuvres, des sculptures qu'elle a faites depuis qu'elle est en France, puisqu'en fait, beaucoup de ses œuvres présentes ont été créées depuis qu'elle est en France. C'est-à-dire qu'elle n'a ramené qu'une seule œuvre, en fait, qu'elle a pu ramener de Russie, puisque là-bas, quand elle performait, quand elle créait des choses, elle devait aussitôt les détruire pour éviter justement de donner des preuves à la police et ensuite leur donner en tout cas des raisons de pouvoir l'arrêter. Et donc elle a ramené simplement 3 impressions sur verre qu'on affiche donc dans l'exposition et voilà. Et puis à part ça, évidemment, Jenna, c'est essentiellement une performeuse. Donc il y aura d'autres, il y a plusieurs événements qui sont prévus au mois de janvier pour justement voir le travail artistique de Jenna.
D'accord. Et donc vous avez dit que c'était tout public, bien évidemment, pour visiter l'exposition.
Tout à fait.
Et qu'est-ce qu'ils retiennent en général, en gros, quand ils ressortent de l'exposition ?
Ah ben ça faut leur demander, mais je pense qu'ils sont assez surpris. Je pense que c'est un travail artistique assez radical qui peut peut-être choquer à prime abord, mais qui est là justement pour interroger le spectateur sur l'existence en fait de ces personnes-là qui se battent pour leur art. Et il faut savoir que Jenna a commencé comme drague très jeune et puis ensuite s'est portée vers la performance artistique en découvrant le travail d'autres artistes comme Lee Bowery ou dans les années 60, etc. Et donc, je pense que c'est intéressant de voir justement comment une artiste russe aujourd'hui peut délivrer un message par rapport à son pays, mais par rapport aussi à sa communauté.
C'est très intéressant, oui, tout à fait. Et est-ce que vous aimeriez voir son exposition ?
Pardon ?
Est-ce que vous aimeriez bien voir l'exposition ? Vous n'avez pas encore vu l'exposition de Jenna Marvin ?
Alors, moi, j'ai travaillé pour l'exposition. Donc, si, évidemment, je la vois tous les jours sur mon lieu de travail.
Oui.
Et c'est toujours c'est surtout un grand plaisir d'avoir travaillé avec Jenna. Ce qui va être intéressant à voir au mois de janvier, c'est tous les événements justement qui sont associés à cette exposition, puisque Transfo organise aussi beaucoup d'autres événements ponctuels, et notamment des performances que Jenna fera le jeudi 22 janvier et également le samedi 7 février à 20h à Transfo. Et puis elle rencontrera également son public le samedi 17 janvier à 17h à Transfo.
Eh bien, c'est des rendez-vous qu'on va bien noter dans nos agendas. Ça
Merci.
Donne très envie d'aller voir cette exposition propaganda de Jenna Marvin, donc à Transfo. Et tout de suite, on va écouter une dernière musique. Donc, je vous remercie pour votre interview. Et on va écouter une dernière musique qui est Alone Omen 3 de King Cruel. C'est tout de suite.
Take a dip, feel low, take your time. Take a ticket, take the train to the end of the line. See where you can go, spend it, it's plastic, no do or die. Better flip it, think about it, and do just fine. Well, these things will come and go. Deep in the metropole. See it land, forget its flight. Draw a line in the sand between your thighs, just to see which way you go. So you got this, you're the lead, feel your own. Battle through it, consume it, then let it go. Good. But don't forget you're not alone. In the storms of your mind,
soak it in for the rain. We'll pass the time, nothing running, sinking low. In the omen of paradise, you're the ghost they put aside. But don't forget you're not alone. Sometimes it's just true. But don't forget you're not alone. Sometimes it's just true. Every minute, every second, you're not alone, 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 you're not alone.
C'était Alone Home and Three de King Krule dans la matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h.
On touche presque à la fin de notre émission, mais avant ça, on prolonge un peu le plaisir. Encore avec de la musique, mais cette fois sous forme de mots, puisque nous avons l'immense plaisir d'écouter la chronique de Finn. Bonjour Finn.
Oui, bonsoir Julie. Je voudrais parler de Naïma, une composition au titre énigmatique du saxophoniste ténor John Coltrane. Le morceau se présente comme un doux port de plaisance dans le voyage jouissivement houleux qu'est le célèbre disque Giant Steps dont il est issu. Il sonne comme ça. Parmi toutes les compositions de sa main, John Coltrane disait que celle-ci était sa préférée. Naïma est envoûtant d'une tendresse tragique, d'une vulnérabilité qui paradoxalement rend l'invulnérable vulnérable. Dans les notes de Giant Steps, le journaliste Nat Hentoff écrit, je cite, qu'il y a un cri, pas nécessairement désespéré, dans l'œuvre des meilleurs musiciens de jazz. Il est celui d'un homme en contact total avec ses sentiments et en capacité de les exprimer. Ce cri, Coltrane l'exprime très certainement. Et oui, on veut bien admettre que cette composition recèle quelque chose de l'arrière-monde richement sinueux du saxophoniste. Elle suscite en nous un imaginaire prêt à porter, fait de génies incompris, de solitudes visionnaires et de héros qui, par leurs avant-gardes, échappent à l'histoire. Et en même temps, Naïma est le surnom que John Coltrane donne à Juanita Grubbs, jeune femme philadelphienne qui, pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille, travaille comme couturière dans une usine. Les deux se rencontrent en 1953 à une soirée chez le bassiste Steve Davis. D'héritage pourtant chrétien, la spiritualité de Coltrane est profondément infléchie par cette femme à peine convertie à l'islam. 2 ans plus tard, ils se marient. Et assez rapidement, et comme nombre de musiciens de jazz de l'époque, Coltrane développe une addiction à l'héroïne et à l'alcool. Juanita est son plus loyal soutien quand le saxophoniste lutte pour son sevrage. Et quand celui-ci réussit, la petite famille déménage de Philadelphie à New York. Se sentant comme ressuscité, Coltrane commence doucement à formuler des vœux d'émancipation du trompettiste Miles Davis, pour qui il avait été l'un des sidemen les plus prometteurs. Giant Steps et Naïma font partie des premières œuvres que Coltrane signe enfin comme leader de formation. Le mariage, quant à lui, s'effrite. Certains accusèrent et accusent encore Coltrane d'infidélité. Le divorce est acté en 1963. Bref, Naïma a un nom, Naïma a une histoire. S'il nous semble essentiel d'attirer l'attention sur l'histoire de Naïma, ce n'est pas seulement pour rendre justice à son sujet-objet menacé d'être réduit à la figure paralysante de la muse d'un artiste torturé. On pourrait nous accuser trop facilement de pervertir l'appréciation esthétique toujours première de l'œuvre d'art. On nous dirait qu'il faut d'abord entendre en Naïma un cri du cœur, cri qu'il faut savoir distinguer de l'histoire dans laquelle il est exprimé. Mais alors à nous de répondre. Se donner spontanément Naïma comme le cri d'un cœur génialement torturé, c'est déjà hérité d'une histoire. C'est déjà mêlé à l'appréciation esthétique du morceau autre chose que lui-même, à savoir l'archétype paresseux de l'œuvre en dehors du monde. Surtout, en rendant à Naïma sa réalité historique, c'est peut-être à Coltrane lui-même que nous rendrons le plus justice. En faisant descendre notre rockstar sur terre, en tempérant l'imaginaire du génie incompris, on remet à l'artiste toute la complexité de sa biographie, des influences qu'il a subies et des structures sociales et politiques dans lesquelles il est capturé. N'est-ce pas bien plus fécond et intrigant de faire de Coltrane un homme de son temps ? Une fois décollée cette étiquette réflexe du génie d'un autre monde, il apparaît un Coltrane et un Aima bien plus puissants, si puissants qu'ils peuvent sereinement coexister avec l'histoire qui les a enfantés.
Merci Finn pour ce moment de douceur pour terminer notre émission qui touche déjà à sa fin. Mais on se retrouve dès la semaine prochaine, du lundi au jeudi à 19h en direct. Et vous, si vous êtes trop impatient, vous pouvez retrouver les podcasts de l'émission sur le site de Radio Campus Paris. Avant de terminer, je voulais remercier nos invités Clément Carbonnier et Gilles Arvan, et puis tous les bénévoles qui ont permis que cette émission existe. Julie à la réalisation, Vlad et Tiana à l'interview, Lia au Flash Info, Abel et Finn pour leur chronique, et à la coordination, c'était Aude et Jeanne. Il en faut du monde pour bercer vos oreilles. Je vous laisse avec l'émission Triste Tropique pour parler d'écologie, et je vous souhaite une excellente soirée.